pouvez manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite, vous le savez. C'est parti pour 2 heures avec ce soir 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel, notre seule robe ici, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir Marc, chers auditeurs.
Jean-François Coulon-Desart, journaliste et écrivain indispensable à cette émission. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Et Franck Herriot, journaliste et écrivain lui aussi, tout aussi indispensable. Bonsoir Franck.
Bonsoir à tout le monde.
Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Martine vous attend au standard avec impatience. Vous êtes les bienvenus au programme ce soir. Commission d'enquête, Xavier Niel flashé sur une pente glissante. Je vous explique ça tout à l'heure. Face à la guerre, l'économie française peut-elle tenir, ce sera notre grand dossier avec ici parmi nous Christian Saint-Étienne, économiste, professeur des universités émérite, titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, diplômé de la London School of Economics, de l'université Carnegie, de Paris 2 et de SCP Europe, auteur de nombreux livres, on a beaucoup de chance de l'avoir. Christian Saint-Étienne, on va ausculter l'économie. En deuxième partie, un petit peu avant 19h, nous parlerons du Bataclan 2015, retour sur un exploit avec le patron de la BRI, Christophe Molmy. Il est l'ancien patron de la Brigade de protection des mineurs, ancien patron de la BRI donc, et il est aussi romancier et lauréat du prix du Quai des Orfèvres 2026, on en parlera tout à l'heure. Et puis on aura notre traditionnel clin d'œil culture que le monde nous envie, mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'avez-vous retenu de cette semaine? Je me tourne vers mes chroniqueurs et vers Franck Herriot par exemple, là, qui piaffe.
Non, je piaffe pas, mais je suis resté quoi au détour d'un article du Point sur le premier constructeur de voitures électriques au monde, BYD. Je suis resté quoi sur quelques chiffres? La petite usine qu'ils ont construite dans la province du Yunnan s'étend sur 2500 hectares, soit 125 km2, en Chine, oui, bien sûr, 125 km2, donc un peu plus que les 105 km2 de Paris. Il y a une voiture qui sort, terminée évidemment, clé en main, qui sort toutes les minutes, qui sort de la chaîne. Ouais. On estime qu'ils produisent, enfin en 2024, ils étaient autour de 550 000 véhicules. Produit donc pour cette année-là. Ils gardent les chiffres secrets, mais vraisemblablement beaucoup plus l'an dernier.
Ouais, la crise de l'industrie automobile, c'est pas pour eux.
Et cette usine qui s'étend sur 125 km² est entièrement robotisée. Voilà, c'est la Chine.
Incroyable. On en reparlera tout à l'heure avec Christian Saint-Étienne, j'imagine.
BYD, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez?
Aucune idée, Jean-François.
BYD, en français, construit ton rêve. Build your dream. BYD.
Mais en français ça donne bid.
Oui, bah voilà, exactement. C'est, voilà, ça veut dire ça.
Bon bah on donnera un cours d'anglais une autre fois. Mais en attendant, Jean-François Coulon-Desart, puisque vous avez la parole, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de l'actualité?
Une histoire de château. Qu'est-ce qu'il y a de commun?
Votre actualité, une histoire de château.
Oui, une histoire de château. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le château d'Amboise, le château de Chaumont et puis la pagode de Canteloup? Vous savez, c'est une folie architecturale qui date du XVIIIe siècle. Eh bien, les panoramas qu'offrent ces merveilles ne vont pas être défigurés par des mâts et des pales d'éoliennes. Figurez-vous que la cour d'appel de Versailles a annulé le projet de parc de 4 structures de 142 mètres de haut qui auraient défiguré l'ensemble. Donc c'est une victoire pour les associations Et pour...
Ça va parler à beaucoup d'auditeurs.
Et pour son avocat, ça constitue d'y mettre mon ami, qui défendait une pléiade d'associations qui luttait contre ces éoliennes. Ça constitue une nette avancée, je le cite, dans la protection du patrimoine. Il va évidemment être attaqué par les promoteurs du projet. Reste à savoir quelle sera dans cette affaire la position du Conseil d'État. Donc on a gagné une bataille, on n'a pas encore gagné la guerre.
Bon, voilà, une bataille pour les anti-éoliennes, qui sont nombreux. Damien Chalamel, cher maître.
Oui, alors moi, j'ai retenu, alors, pas une nouvelle tout à fait de cette semaine, mais ça s'étale. C'est le sketch de cette tempête dans un verre d'eau germano-pratin, qui est le départ d'Olivier Nora des éditions Grasset. Ouais. Alors, pour nos éditeurs, bon, ben, Grasset, on se dit, ah, mais Grasset, c'est Morand, c'est Alphonse de Chateaubriand, c'est Drieux-La Rochelle, c'est Abel Bonnard, c'est Jacques Chardonne. Non, mais en réalité, depuis les années 80...
Oui, depuis Jacques Chardonne, ça a un peu
voilà, évolué. Non, mais ça, c'était vrai pour nos chers auditeurs qui sont cultivés.
Ou François, même François Villon, sinon
Non, ou les 4M, Monroy, Monterland, Mauriac, Morand. Non, mais la réalité, c'est que c'est depuis les années 80-90, c'est plutôt l'éditeur de BHL, d'Alain Minc et de Virginie Despentes. Donc tout ce petit monde-là a quitté avec perte et fracas...
On est loin de Jacques Chardonne.
Exactement, a quitté avec perte et fracas cet éditeur au motif que le dirigeant de Grasset était mis sur la touche par son actionnaire. Et c'est là qu'on apprend que ce Olivier Nora gagne la somme mirifique d'1 million d'euros, tandis que sa société d'édition ne fait qu'un bénéfice de 800 000 euros. Donc voilà, et que par ailleurs, contrairement au desiderata de son actionnaire, il souhaitait retarder la publication du prochain opus de Boualem Sansal, qui doit paraître début juin, et qui voulait repousser sa publication au mois d'octobre. Bref, on a assisté à une merveilleuse petite campagne par Tribune et une de Libération en particulier interposée. Tout cela, bien évidemment, est tout à fait orchestré. Et cache en réalité, je dirais, la fin d'un cycle. Je dirais que, bon, voilà, c'est
au moins pour cette maison, ça c'est sûr.
Oui, ouais. Et puis non, mais la fin d'un cycle intellectuel, si vous voulez. Vous pouvez oublier BHL et Alain Minc, que personne ne relira. Et on va pouvoir rentrer dans le 21e siècle.
Ah, bon, avec quels auteurs?
C'était la question. Boualem Sansal, par exemple.
Voilà. Et Christian Saint-Étienne, peut-être.
Et puis s'il y a des lecteurs d'Alain Minc et de l'inénérable BHL à Radio Courtoisie, rassurez-vous.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Les contrats d'édition en vertu desquels ils ont cédé leurs droits ne sont absolument pas remis en cause. Et ils sont juridiquement, ils ne peuvent pas être remis en cause, absolument pas.
Donc, ils ne peuvent pas quitter comme ils veulent Grasset.
Ah si, ils peuvent quitter, pas pour les ouvrages qu'ils ont précédemment. Pour les livres futurs.
Mais là, ils peuvent quitter, ils peuvent récupérer leurs droits.
Non. Non, ils ne les récupèrent pas. D'accord. Pour les livres déjà existants et pour lesquels ils ont cédé leurs droits, il n'y a absolument pas de clause de conscience.
Oui, ça
ou même le changement d'actionnariat, ce qui n'est pas le cas, parce que là, c'est juste le changement d'un mandataire social. Olivier Nora. Et même le changement d'actionnariat ne leur permettrait pas de résilier leur contrat d'édition.
Voilà. Il n'y a pas de clause de conscience.
Précision importante. Ce ne sont pas des journalistes, tout à fait.
Ils ne sont pas dans la presse. Oui.
Non mais dans ce petit barnum germano-pratin, si on avait une autre grille de lecture et si tout simplement Olivier Nora avait décidé après près de 30 ans de bon l'œil au service de partir, il aurait orchestré ça de main de maître, parce que s'il avait fait valoir ses droits à la retraite comme tout salarié, il serait parti avec un chèque certes confortable, mais pas avec les millions d'indemnités qu'il va prendre là. Si tout ça avait été organisé, je ne sais pas, je n'affirme rien, je m'interroge. Si tout ça avait été organisé, et tous ces auteurs Grasset étaient les dindons de la farce ou les cocus de l'histoire, finalement. Je ne sais pas,
non,
je pose la question.
Je ne pense pas à ceci près que je pense que...
Maître Chalamel.
On peut se poser la question.
Ce que je pense, c'est que...
Spécialiste de la propriété intellectuelle, le précise.
Son vieil ami Denis Oliven, qui est le PDG d'Editis, qui est le deuxième groupe éditorial français, l'attend... Et ces auteurs, les auteurs qu'il chapeautait, qu'il éditait, seront tout à fait les bienvenus chez Editis, c'est-à-dire Plon, Julliard, Robert Laffont. Ce ne sera pas compliqué pour eux. Maintenant, je ne pense pas que ce soit...
De... Non, Julliard, peut-être pas.
Bah, pas compliqué pour eux, ça dépend Julliard. Desquels, parce que j'ai l'impression que tous ne vendent pas beaucoup.
Editis. C'est chez Editis, Julliard.
Oui, c'est chez Editis.
Ah, pardon, autant pour moi.
Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, les groupes éditoriaux. Donc, c'est très concentré.
Entendu. Alors, moi, j'ai ma petite actu aussi. C'est la suppression des vitraux de Viollet-le-Duc à Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez... suivi cette affaire, alors c'est pas encore décidé, mais enfin ça a l'air mal parti pour les vitraux de Viollet-le-Duc, parce que l'association Sites et Monuments a tiré la sonnette d'alarme. L'autorisation des travaux pour la dépose des vitraux de Viollet-le-Duc et leur remplacement par ceux d'une créatrice qui s'appelle Claire Tabouret, donc a été affichée sur les grilles de Notre-Dame le 20 avril. Ça laisse 2 mois pour attaquer cette autorisation devant la justice, ce qui est peu. Et cette fameuse Claire Tabouret, donc, cette peintre, avait remporté un concours. Elle avait exposé ses projets au Grand Palais. Et la philosophie de cette artiste, eh bien, elle est inspirée par les migrants. C'est ce qu'elle avait expliqué pour la constitution de ses vitraux. Et ce qu'elle disait, c'est que ça serait une catastrophe, je la cite, de congeler un monument dans son histoire. Voilà, dit-elle. Donc... En gros, elle se place un petit peu au-dessus des créateurs, des anonymes créateurs de Notre-Dame, qui ont congelé Notre-Dame dans son histoire. C'est les architectes, les créateurs de vitraux, les sculpteurs qui ont fait Notre-Dame. Finalement passe un peu derrière dans l'esprit de cette créatrice. Et voilà, en tout cas, c'est la dépose des vitraux de Viollet-le-Duc, la restauration des maçonneries, la réalisation et l'installation des vitraux de Tabouret coûterait environ 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est quand même extraordinaire. Tout ça pour remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc. Quand on dit que la France est en crise, vous voyez, on trouve toujours un peu d'argent pour faire des bêtises.
Mais non, c'est le caprice du prince. C'est le caprice du prince. C'est Macron qui a voulu ça. Absolument. C'est vraiment le caprice du prince. Voilà, exactement 4 millions pour des vitraux. Alors, on ne sait pas encore où vont être déposés les vitraux. Comment on va les déposer? Où on va les mettre? Dans un musée, je suppose.
Ah,
ceux qui vont, voilà. Mais c'est un vrai caprice. Et avec le soutien de l'épiscopat, d'ailleurs. Parce que le cardinal est d'accord là-dessus.
Alors, oui, absolument.
C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a une commission du Vieux-Paris qui avait émis un avis négatif.
Oui, Jean-François Legaret qui pilote cette commission.
Et donc, le cardinal, peut-être trop sensible aux caprices du prince, avait accédé à la demande de Macron. Mais les spécialistes de l'art et de la protection des bâtiments parisiens avaient émis un avis négatif. Alors ces vitraux, ils sont au rez-de-chaussée. Quand vous rentrez dans la cathédrale, c'est sur le côté droit.
C'est dans une petite chapelle.
Voilà. Oh, ouais. Et donc, effectivement, les vitraux de Claire Tabouret ont été exposés au Grand Palais il y a quelques mois. Et il se trouve que moi, je suis allé les voir, parce que j'allais voir aussi une autre exposition qui était au même endroit. Y a un choix de couleurs qui est intéressant, mais en revanche, le dessin ne correspond pas à l'histoire de la cathédrale. Et donc, c'est caprice du prince, pourquoi pas, mais pour faire mieux que ce qui est là, si c'est pour faire moins bien, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est plutôt par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, la question serait plutôt pour moi, où est-ce qu'on va mettre les vitraux de Claire Tabouret si on les met pas, si on les met pas, notre
va-t-on faire les vitraux de Claire Tabouret? Exactement. Non, mais surtout, il n'y a pas du tout d'esprit chrétien. Je veux dire, c'est pas des vitraux qui sont faits pour élever l'âme. C'est quand même une cathédrale et c'est même une des plus emblématiques de France. Donc,
alors, elle-même dit qu'elle a fait tout un travail spirituel pour essayer d'imaginer ces vitraux. C'est simplement, ça ne correspond pas à l'endroit où on va les mettre. Donc, je pense qu'en revanche, il y a des églises extrêmement modernes qui ont été construites en France dans les 30 dernières années. Ah bah voilà, et ça pourrait aller dans une de ces églises.
Voilà, dans une église en béton, très bien. Voilà. Allez, on va parler de Xavier Niel qui a été flashé, figurez-vous, sur une pente glissante.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
La gauche s'était indignée que Pierre-Édouard Sterrin échappe à une commission d'enquête. Le patron de Iliad Free, Xavier Niel, lui, eh ben, il était au ski. Silence radio de nos grands moralistes de gauche. Et pourtant, on pensait que la gauche ne plaisantait pas avec la représentation nationale. La preuve, elle n'a pas eu de mots assez durs lorsqu'un milliardaire, en l'occurrence Pierre-Édouard Sterrin, ne s'est pas présenté devant la commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France. Le 20 mai 2025, le président de cette commission, le député macroniste Thomas Cazenave, avait dénoncé un mépris profond pour la représentation nationale. Le député LFI Antoine Léaumont, il parlait bien sûr de Sterrin, hein, déploré le même jour. « Monsieur Sterrin se défile depuis plus d'un mois. » La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, demandait elle aussi officiellement à Sterrin de respecter les Français. Je cite, Pierre-Édouard Sterrin était menacé de mort en réalité par les gentils militants de gauche. Tant pis, il devait venir. Un an plus tard, le média d'enquête en ligne Off Investigation révèle donc un poteau rose. L'actionnaire de Free, Xavier Niel, de Iliad Free, était attendu devant la commission d'enquête pour l'audiovisuel public de Charles Alloncle le 26 février dernier. Il avait prétexté une demi-heure avant son audition, une demi-heure avant, un empêchement urgent parfaitement indépendant de sa volonté. La séance prévue à l'Assemblée avait donc été annulée. Niel était ainsi en vacances à Courchevel, la très luxueuse station de ski. Ce macroniste déclaré est l'actionnaire du Nouvel Observateur, de Télérama, de Courrier International, de La Vie, du Monde Diplomatique, du HuffPost, de Nice Matin, de France Anti, des Jours, de l'Informé. Il a revendu ses parts dans Le Monde, autant de médias volontiers, donneurs de leçons, mépris de la vérité, mépris des élus venus l'entendre, mépris, parce qu'eux étaient au rendez-vous, mépris des institutions, mépris du peuple. Il risque 7 500 € d'amende, dit la loi. Une goutte d'eau pour Niel, dont la fortune personnelle est estimée à près de 28 milliards d'euros par le magazine Challenge. Notons qu'il a fini par venir devant cette commission plus tard, le 2 avril 2026. Il y a montré une grande violence verbale. Dans Boulevard Voltaire, Yves-Marie Sevilla, qui a suivi tous les débats, écrit de ses 5 mois de travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, l'audition de Mathieu Pigas et Xavier Niel fut à n'en pas douter la plus tendue et la plus violente. Xavier Niel a accusé Alloncle de proférer des mensonges, il a daubé sur Charles-Henri Alloncle, il a qualifié la commission parlementaire de cirque en prétendant n'être pas un clown. En est-il certain, Bolloré n'a pas fait tant de manières. Il s'est présenté simplement, seul, à l'heure, à chaque convocation pour répondre poliment aux questions des députés de tous bords. Niel a donc préféré le ski sur un terrain glissant, celui qui se rapproche quand même du foutage de gueule. Disons les choses. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez suivi ça, les uns et les autres?
Oui, moi,
Damien Chalamel,
oui, j'ai suivi.
Notre cher maître, qu'est-ce qu'il en pense?
J'étais sidéré au moment où on a entendu M. Niel de son arrogance, vraiment, mais toute plutocratique, hein, parce que sa légitimité et son arrogance se mesurent à la hauteur de son patrimoine. Et quand on a, et notamment sur, il a été interpellé sur la raison pour laquelle il n'avait pas pu se rendre à la première convocation. Mmh. Et il avait répondu de manière extrêmement violente et arrogante qu'un chef d'entreprise de son niveau avait certains impondérables. Donc on s'imaginait, on, je sais pas, moi, qu'il allait sauver l'économie française.
Qu'il avait un rendez-vous avec Trump.
Oui, ou peut-être avec M. Drahi pour acheter SFR. Rétrospectivement, je me suis dit que c'était peut-être ça.
Bah,
et
oui,
en fait, non. On apprend
on
que,
l'a cru, en fait.
On apprend qu'il était sur les pistes à Valto. Super.
Hein. Courchevel.
À Courchevel. À Courchevel. Ah oui, pardon, excuse-moi, à Courchevel. Non, mais tout ça est pathétique, quoi. Et résume bien la veulerie aussi du personnage, quoi. Enfin, c'est... Qui n'assume même pas, qui n'assume rien du tout, en fait. Et puis ce mépris devant la représentation nationale, quoi qu'on en pense, quels que soient les élus, qu'ils soient LFI, LR, ils ont une once de légitimité, ils se sont présentés devant les suffrages, ils ont brigué les suffrages de leurs citoyens.
Tous les cadres de France Télévisions, tout le monde a joué le jeu, honnêtement.
Oui, mais voilà, effectivement, et l'autre arrogant qu'on avait envie de gifler, c'était effectivement M. Pigas, qui donnait des leçons de droit pathétiques.
Oui, mais il était là.
Il était là.
C'est de donner...
Il s'est rendu aux convocations, y compris à celles où Niel n'était pas. Il était tout seul, il était là, lui, Pigasse, et Niel n'était pas là. Tous les députés étaient venus, tout le monde s'était dégagé. Il y avait donc 40 personnes qui étaient venues pour l'entendre. Et lui, il faisait du ski à Courchevel. Bon, bah, écoutez, il faut quand même avoir un peu de...
Mais non, mais Xavier Niel est un monsieur, et il croit que sa fortune lui permet tout, lui permet de s'affranchir de toutes les règles de bienséance, de toutes les lois. C'est un paltoquet. Ma grand-mère avait une expression pour ces gens-là qui était pas mal.
Ah, qu'est-ce que disait votre grand-mère ?
Elle disait, ce sont des gens qui n'ont pas de racines.
Voilà. Ah, bah, je retiens l'expression.
Voilà, paltoquet, c'est pas mal. Hein. Paltoquet,
pas de racines.
Moi, je trouve plus globalement, pour élargir
Franck
un
Ariot.
Peu, ce qui me stupéfait, c'est la puissance de ces gens-là, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est une véritable puissance, qui détiennent des médias ou pas, d'ailleurs. Et comparer des hommes politiques qui parfois sont beaucoup moins puissants et qui peuvent tomber de leur piédestal beaucoup plus rapidement. Moi, c'est cela que je retiens. Alors, Xavier Niel, c'est vrai que c'était frappant ce jour-là, mais c'est vrai pour les autres aussi.
Non, mais c'est amusant parce que si vous comparez à Vincent Bolloré,
pas forcément
on est d'accord. Je parle de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils sont et de la puissance qu'ils ont entre les mains.
Mais on avait d'un côté donc Vincent Bolloré qui était d'une bonhomie affable.
Non mais après bien sûr
répondant aux questions.
Tout à fait.
Et qui aussi à l'aune de son patrimoine, il aurait pu être encore plus arrogant que Monsieur Niel, mais il ne l'était pas.
Ouais. Sa puissance peut-être se dénotait dans sa décontraction.
Voilà. Non mais il s'est permis quand même.
Parce que lui il a des racines.
Il a des racines.
Il était lancé tout chousse et sans bâton, hein, notre ami Niel, parce qu'il s'est quand même permis d'envoyer au rapporteur « Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Vous coûtez 35 000 euros aux Français tous les mois. »
Enfin, la question sur cette commission d'enquête, c'est de savoir sur quoi
il va de la part de quelqu'un qui est auditionné à l'Assemblée.
Réflexion de petit épicier.
Voilà, Christian Saint-Etienne qui a été auditionné à l'Assemblée plusieurs fois, notamment pour la commission sur l'industrie, la désindustrialisation, c'est ça ?
Exact, oui.
Voilà. Ce ne serait pas permis de parler comme ça aux députés, j'en suis certain.
Non, alors ce qui est étrange, c'est qu'effectivement j'ai été auditionné par des commissions du Sénat et de l'Assemblée. On vous appelle avant et on trouve une date qui est compatible pour tout le monde. Donc, je ne sais pas, en l'occurrence, la personne... que vous citez, est assez puissante pour demander à sa secrétaire de modifier la date du rendez-vous s'il sait qu'il va skier. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pris ce risque totalement inutile.
Il y a peut-être de la poudreuse à Courchevel qui était un impondérable.
Non, mais une demi-heure avant. C'est quand même ça qui est incroyable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez cavalier. Allez, on va se demander si, face à la guerre, l'économie française peut tenir.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Ariot, Jean-François Coulon-Desart et Damien Chalamel, la guerre États-Unis-Iran devait être courte. Elle n'en finit plus avec des effets auxquels on est maintenant accoutumé sur l'accès des pétroliers au détroit d'Ormuz et les craintes donc sur l'approvisionnement en pétrole qui est un peu la circulation sanguine de nos sociétés et de nos économies. Nouveau aussi, le surcroît d'investissement que doit faire la France pour sa défense. Le ministre de l'économie Roland Lescure estime l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur un an entre 4 et 6 milliards d'euros. Il a donné ce chiffre cette semaine. Quel effet peut avoir cette conjoncture nouvelle sur une économie affaiblie et soumise à une politique offensive de Donald Trump en particulier, mais d'autres aussi, de la Chine ? La France et l'Europe ont-ils définitivement mangé leur pain blanc ? Pour en parler, aujourd'hui, nous sommes très fiers de recevoir aujourd'hui Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian Saint-Etienne. Donc on vous a entendu un petit peu tout à l'heure. Vous êtes une sommité de l'économie, on peut le dire, hein, professeur des universités émérite, titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez un tas de diplômes, London School Economics, Université de Carnegie, Paris 2, SCP Europe... Et vous écrivez régulièrement dans la presse économique, vous avez signé de très nombreux livres, dont « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale », qui a été publié en 2023. On est quand même un peu dedans, aux éditions Alpha. Et puis vous avez publié, voilà, un an, « Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe chez Odile Jacob. Vous étiez déjà venu nous en parler d'ailleurs. Livre absolument passionnant, très intéressant, très précis. Alors d'abord les grandes puissances, et puis après ça on parlera de la France. Hein. On pensait l'Iran écrasé, hein, on nous a dit ça, que ça serait très rapide, que la guerre serait rapide, Trump, etc. En fait, pas du tout. Hein, l'Iran, apparemment, a des atouts économiques et stratégiques. Est-ce que Trump les avait sous-estimés, à votre avis, de les atouts, notamment économiques, hein, de l'Iran?
C'est surtout des atouts militaires et des atouts de résilience. Hmm. Je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de considérer que comme c'est un peuple, en termes économiques, qui est sous-développé, qui vit essentiellement d'exportation de pétrole, alors même que le peuple iranien a la chance d'avoir énormément de gens extrêmement intelligents, qui sont très bons en mathématiques, en informatique. D'ailleurs, quand il y a eu la chute du Shah, la France a récupéré plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens qui ont fait de très belles carrières en mathématiques et informatiques en France. Donc, l'Iran aurait tout pour se développer et notamment s'inscrire dans la révolution de l'informatique dans laquelle nous sommes depuis 4 décennies. Simplement, le régime n'a pas permis cette éclosion parce que l'économie du numérique, c'est une économie de l'innovation. Donc, c'est une économie de la liberté. Or, le régime qui s'est mis en place en 1979 en Iran est un régime totalement autoritaire, totalitaire, castrateur, qui non seulement a réduit les femmes à un statut d'animaux, mais elle est dans une situation où les savants, les gens de qualité, ont été, un peu comme en Russie d'ailleurs, orientés vers les activités militaires, mais le développement civil a été bloqué. Alors il faut dire aussi que depuis 2015, on avait eu un accord donc, entre les États-Unis et l'Iran pour maîtriser la filière de fabrication de l'uranium enrichi. Alors, si on se souvient de ce qui s'était passé en 2015, d'ailleurs, l'accord de 2015 avait été contesté par de nombreux spécialistes parce que, en fait, on avait trouvé un très bon accord sur le nucléaire, mais il y avait deux autres volets qui n'avaient pas été traités. D'une part, la capacité de l'Iran de fabriquer des missiles et d'autre part, le fait que l'Iran actionne des groupes terroristes.
Ça faisait pas partie de l'accord.
Ouais. Voilà. Donc, ça avait été terriblement contesté. Cet accord avait été négocié sous la mandature d'Obama et essentiellement négocié par son ministre des Affaires étrangères. Donc, Trump avait d'ailleurs dit si j'arrive au pouvoir, je casserai cet accord. Donc, il est élu en 2016 et il arrive au pouvoir en janvier 2017 et il casse un certain nombre d'accords, dont cet accord sur l'Iran. Il casse un autre accord, ça a été une erreur historique de Trump, un accord qui avait été négocié pendant 6 à 8 ans qui visait à créer un marché commun intégré sur le Pacifique, entre les États-Unis, le Chili, le Japon et l'ASEAN. Donc, ils étaient une douzaine de pays. C'était un accord qui était très important. On pourra y revenir si vous voulez, ou je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, il y a une erreur historique qui a été commise en 2001. L'erreur historique, c'est que les États-Unis s'opposaient à l'entrée de la Chine à l'OMC depuis une quinzaine d'années. Et quand il y a eu le 11 septembre 2001, c'est quelque chose qui me fascine. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. On croit toujours que les États prennent des décisions rationnelles, mais en fait, les États sont comme les individus.
Ouais, ils sont sensibles à des hausses d'adrénaline.
Exactement, et c'est très intéressant et très amusant, parce que ça nous concerne tous. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que les systèmes et les méthodes de prise de décision ne sont pas très différents entre les individus, les entreprises et les États.
Ouais.
C'est-à-dire que ces chercheurs sur la prise de décision résument ça de la façon suivante. On analyse de manière rationnelle et extrêmement précise toutes les décisions qui sont peu importantes, et toutes les décisions importantes sont prises sur un claquement de deux doigts.
Hein. Ouais.
Illustration pour nous autour de la table.
On le voit souvent avec Trump.
Quand on veut demander un prêt pour acheter un appartement, si une banque fait un deuxième chiffre après la virgule supérieur à celui d'une autre banque, on pense qu'ils sont en train de vous racketter. Mais à l'inverse, si tout à coup, vous voyez une fille qui vous semble jolie, vous lui proposez le mariage sans avoir fait d'études très précises des conséquences possibles de la chose. Donc, c'est la même chose sur cette affaire de 2001. Les États-Unis avaient refusé pendant 15 ans pour des raisons extrêmement rationnelles, qui étaient que la Chine ne voulait pas signer deux protocoles annexes de l'OMC, qui était un protocole sur l'ouverture des marchés publics et l'autre protocole qui était l'interdiction des subventions d'État pour pousser les entreprises dans leurs exportations. Donc les États-Unis, très rationnellement, avaient dit non, on ne permettra pas l'entrée de la Chine à l'OMC. Et sauf que les Chinois sont très malins, quand les Américains prennent un coup de poing énorme à leur ego avec le 11 septembre, parce qu'ils n'imaginaient pas qu'on pouvait descendre une tour au cœur de New York.
Ils se sont dit, il nous faut des alliés puissants, voilà, c'est ça ?
Ils ont donc, c'était Bush Junior qui était président des États-Unis, et à ce moment-là, il a commencé à dire, nous sommes attaqués par les puissances du mal. Et la Chine a immédiatement dit, face aux puissances du mal, qui étaient notamment à ce moment-là l'Iran et la Corée du Nord, et donc tous les pays qui rejetaient l'ordre international américain, la Chine a dit, mais nous sommes de votre côté. Et donc là aussi, c'est sur un claquement de doigts.
Embrassons-nous, Folleville.
Voilà, nous sommes attaqués dans notre honneur américain. La Chine nous rejoint. En réalité, la Chine, qu'est-ce qu'elle jouait ? Elle avait en tête les 15 millions de Ouïghours qu'elle maltraite terriblement et qu'elle massacre. Et donc, ils ont fait coup double, puisqu'on ne les a jamais embêtés ensuite sur les misères qu'ils font aux Ouïghours. Et donc, c'est complètement officiel tout ça. Hein. C'est-à-dire que les Américains ont dit, bon, ben ok, on les laisse rentrer à l'OMC, tant pis s'ils ne signent pas les...
C'est la différence entre une civilisation, les Chinois, qui a 1500 ans, un peu, même plus que ça, 3000 ans, et les États-Unis qui ont 250 ans. Mais je voudrais vous poser une question sur, vous parlez de décisions parfois irrationnelles que prennent les États. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça va changer avec l'intelligence artificielle ? Déjà, ça change la guerre, les targets en Iran. Est-ce que vous ne pensez pas que...
Alors, c'est une question très complexe, parce que...
Les targets, Jean-François Coulon sera fouetté tout à l'heure.
Il y a au moins deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que malgré tout, les programmes qui font fonctionner l'intelligence artificielle continuent d'être écrits par des hommes. Donc, la question, c'est... est-ce qu'il peut y avoir des boîtes noires qui font que progressivement l'IA travaille sur elle-même et on ne sait plus ce qui sort ? Donc ça, c'est le grand débat depuis une dizaine d'années, pour lequel il n'y a pas de réponse pour l'instant. Donc la rationalité de l'IA dépend pour la partie rationnelle, c'est-à-dire l'écriture des programmes qui font fonctionner l'IA. Oui, il y a une rationalité, mais s'il y a un travail qui se fait dans la boîte noire hors contrôle de ceux qui ont créé l'IA, à ce moment-là, on peut tomber dans une irrationalité totale. Ce que les gens craignent le plus, par exemple, dans l'utilisation de l'IA dans l'armée, c'est qu'à un moment donné, l'IA ait du mal à distinguer nos soldats et les soldats ennemis. Donc, on pourrait imaginer qu'ils tirent sur les soldats qui ont... créer ces IA et ces armes.
Alors, Christian Saint-Etienne, on reste dans le conflit, là. Je voulais savoir si le blocage du détroit d'Ormuz et le blocage du pétrole, l'arrivée du pétrole, est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène qui finalement... un coup de chaud, on va dire, sur les approvisionnements pétrolières de la France et de l'Europe, ou est-ce que ça, c'est quelque chose de plus comparable à la crise de 73, par exemple, qui risque d'avoir des effets lourds, structurants, massifs, notamment sur nos pays ?
Alors, si le conflit dure longtemps, l'impact sera considérable. Tous les économistes en sont réduits à ce qu'a fait le FMI dans sa publication il y a quelques jours, qui est de dire qu'il y a deux scénarios, soit ça s'arrête fin avril, soit ça continue plusieurs mois ou au-delà. Ouais. Dans le cas où ça continue plusieurs mois, l'impact sera très significatif. Le FMI imagine dans le scénario le pire que la croissance mondiale soit réduite d'un tiers. C'est-à-dire que dans le scénario où ça se calme rapidement, on devrait avoir une croissance mondiale supérieure à 3%. Si ça s'aggrave, on pourrait avoir une croissance à 2%, à un peu moins. Alors, il se trouve j'ai fait beaucoup d'émissions sur ce sujet je m'élève contre l'analyse qu'on fait généralement sur la crise autour du détroit d'Ormuz en disant c'est à cause de l'Iran, du pétrole. Il y a quelque chose qu'on ne mentionne pas du tout, c'est que la seule France a fermé 4 raffineries dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est un impact structurel absolument majeur parce que, par exemple, actuellement, on n'a pas de problème d'approvisionnement de pétrole, on a un problème de transformation du pétrole en kérosène et en diesel. Et si on a ce problème, c'est parce qu'on a fermé les raffineries. D'autre part, on a transféré autour du détroit d'Ormuz la fabrication de l'urée, qui est un élément clé de l'agriculture, mais l'urée, elle était fabriquée en Europe avant. Donc, en réalité, il y a deux niveaux d'analyse sur la crise liée à Ormuz. Le premier, c'est qu'effectivement, à court terme, on est gêné par cette crise d'approvisionnement de pétrole. Mais en fait, ça démontre le caractère et la faillite totale de l'Europe et de la France sur sa capacité de se projeter à moyen long terme et de réfléchir en termes de sécurité et de souveraineté. Parce que si on avait réfléchi en termes de sécurité et de souveraineté, on n'aurait pas laissé partir toute la fabrication de l'urée, on n'aurait pas laissé partir toute la fabrication de l'aluminium, une grande partie de la fabrication de l'aluminium. Donc, il y a eu une défaillance totale de réflexion stratégique au niveau français, européen, dans les 20 dernières années.
Oui, alors ça, on va y revenir, hein, parce qu'on va parler de la France et de l'Europe. Dernière question, avant de changer de chapitre. À qui profite le crime ? On pense à la Chine, mais qui tire les marrons du feu de cette crise ? Parce que les Français, eux, ils payent, et ils payent cher, hein, donc leur essence. Oui. Donc, il y a bien quelqu'un qui ramasse derrière.
Alors, il y a un autre point que je veux évoquer. Chaque fois que je l'évoque sur LCI, France Info TV, France Info Radio, je dis, mais attendez, on est prêt à se prostituer pour aller chercher du pétrole et du gaz. Est-ce que vous savez que nous avons 4 ans de réserve de gaz dans les mines d'Alsace, qui est le gaz lié à l'industrie du charbon, on a fermé les mines et le gaz s'est développé.
Ouais, il y a des poches de gaz.
Il y a une entreprise qui a investi une quinzaine de millions d'euros et qui travaille depuis 10 ans sur l'extraction de ce gaz. Et dans un quasi-silence, même si on en a un peu parlé, le Conseil d'État a interdit récemment, a annulé l'autorisation d'utiliser ce gaz dans les mines. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, depuis 2012, on interdit de chercher du pétrole au large de la Guyane. Tout ça, c'est pour des raisons idéologiques.
Écolo.
Alors que on se vante toujours d'avoir une électricité en France décarbonée, ce qui est exact, ce qui est merveilleux. Si ce n'est que quand on parle d'énergie primaire, la France, comme l'ensemble de l'Europe, continue de fonctionner en termes énergétiques à 60% avec du gaz et du pétrole. Donc, vous voyez, les défauts de coordination et de prévision...
C'est la politique de Gribouille, ce que vous dites.
Non, mais en plus, je ne sais pas, la crise est tellement violente qu'on pourrait espérer que nos élites impuissantes et tarées se disent, on revient en arrière, on autorise la recherche de pétrole au large de la Guyane. En plus, si on trouve du pétrole et qu'on laisse seulement 5% des recettes à la Guyane, ça va changer l'avenir de ce territoire. Mais non, on a des cerveaux au niveau français, au niveau européen, tellement archaïque, bloqué, ouais, idéologisé, qu'on est incapable, ne serait-ce même que de s'adapter. Ok, on a fait une erreur idéologique il y a 15 ans, les faits ont changé, est-ce qu'on peut prendre une autre décision? On ne peut pas.
Ouais, mais pour ça, et il faudrait faire un mandat honorable. Jean-François Coulon, des Arts.
On a même failli bousiller le nucléaire.
Oui, bien sûr.
Dans lequel on était leader. Ouais, voilà. Alors justement, là, pour les nouvelles centrales nucléaires, on a fait venir des chaudronniers américains parce que les nôtres avaient perdu la compétence. Donc on a failli. Regardez Macron, quand même, il ferme Fessenheim, et là, il nous annonce qu'il va rouvrir, je ne sais plus combien, 4, 6 mini-EPR, etc.
6 EPR.
Oui, 8 ans après. C'est voilà, une politique, avez... effectivement, de slalom, pour revenir à...
Vous avez fait ma transition, mon cher Jean-François, puisque là, nous avons basculé en France. Hein, on y revient tout de suite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Damien Chalamel et Jean-François Coulon des Arts, en présence de l'économiste Christian Saint-Étienne. Il a écrit « Trump et nous » et il est avec nous ce soir. Je voulais qu'on... Ça y est, on a atterri en France, là. Et donc qu'on parle de ce freinage de la dépense évoqué par Sébastien Lecornu, qui a écrit à ses ministres, vous savez, pour leur réclamer 4 milliards d'euros d'économies. Depuis, Lecornu a précisé que la crise nécessitait 6 milliards d'économies. Et je voulais qu'on écoute l'ancien ministre Alain Madelin, qui évoque le sujet.
La crise a un peu bon dos. Hein. C'est-à-dire qu'on dira, dans quelques temps, on n'a pas pu atteindre ces objectifs. Le budget était très, très difficile à boucler et très, 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 très difficile à exécuter. Et la crise, on dira, maintenant, c'est la faute au pétrole.
Il y en a eu pas mal quand même de suite. Entre l'Ukraine, vous disiez les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine.
Non, mais si vous voulez...
Succession de difficultés.
Là, le budget était très difficile à boucler. Il était assez hasardeux sur le fait qu'on puisse le tenir. Oui. Et là, maintenant, on sait qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à le tenir.
Pourquoi ?
Parce qu'on aura moins de croissance et les dépenses continuent de filer. Et puis à cela, vous rajoutez, bien évidemment, la facture, aujourd'hui, des aides que l'on va donner à certains. Certains, comme toujours, dans ce cas-là, vont les mériter. D'autres, sans doute, un peu moins. Tout le monde va dire « et moi, et moi, et moi », et c'est une situation, on a intérêt à ce qu'elle s'arrête le plus tôt possible.
Christian Saint-Étienne, c'est la faute au pétrole. Est-ce que finalement la crise pétrolière ne sert pas un peu d'excuse à la et de paravent, on va dire, à la faillite de l'État qui, du coup, vient faire les poches des Français?
Alors, c'est pas seulement la faillite de l'État, je pense que c'est la faillite du système politique français qui est en bout de course, et surtout de la formation de ses élites. J'évoquais le sujet, mais pour être très très direct, hein, la France a pas mal performé de 1945 à 2000. Hein. En 1999, c'est le dernier point haut de l'économie française. Nous représentons 6% des exportations mondiales et nous avons une position extérieure nette en termes de financiers qui est positive.
Et 1999.
Ça, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes tombés à 2,5, c'est-à-dire que nous avons une chute de notre part de marché mondial de plus de 50%. Donc, les 25 dernières années sont l'effondrement économique le plus violent en France depuis la Révolution française en temps de paix. On n'a jamais chuté avec cette violence. La France avait très bien performé, entre guillemets, dans les deux premières révolutions industrielles. Alors, l'ensemble de l'Europe a fait les mêmes erreurs que nous, mais la France a raté la révolution de l'informatique. On continue de dépendre terriblement des importations de microprocesseurs venus d'ailleurs. Et même quand on lance un projet de fabrication de microprocesseurs à Grenoble, la Cour des comptes a sorti cette semaine un rapport qui montre que l'État avait promis 4 milliards d'euros, enfin d'aider à un investissement au total de 4 milliards d'euros, où il y avait une alliance entre ST Microelectronics et puis une grande entreprise américaine qui s'est évanouie depuis et le projet est à l'arrêt. Dans le même temps, les Allemands ont construit effectivement deux usines de fabrication de microprocesseurs. Alors, ce qui se passe...
On a l'impression qu'on est complètement incapable d'enclencher la remontée nécessaire.
Donc c'est très important de dire on n'a pas enclenché la remontée, malgré tous les discours qu'on tient.
Choose France.
Voilà. C'est-à-dire que Macron n'a pas été totalement inopérant, mais il a simplement contribué à arrêter la baisse de la part de l'industrie dans le PIB. Mais il n'y a aucune remontée.
Dans le produit intérieur brut.
Juste, comme on est à Radio Courtoisie, je pense que ça intéressera les auditeurs. Donc, on performe à peu près correctement de 45 à 2000, et puis on s'effondre en 25 ans. Bon. Ouais. Donc, il y a des gens qui travaillent pour essayer de comprendre comment un pays comme la France peut s'effondrer. D'abord, nous avons une position géostratégique qui n'a pas changé, qui est bénie des dieux, baignée des mers et des océans, avec un peuple qui reste intelligent. Il y a des faiblesses, mais le peuple qui reste intelligent. Et vous avez certainement vu cette étude qui est sortie il y a un peu moins d'un an, qui avait été faite sur qui sont les chercheurs en intelligence artificielle, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui travaillent pour les grands américains, les GAFAM, donc Google...
Les cerveaux qui sont dans
Amazon,
dans le secteur
Meta,
le plus porteur. Ouais.
Et parmi tous ces chercheurs travaillant en intelligence artificielle, 20% sont français.
Incroyable.
Donc, on a des gens de très, très haut niveau. Et même à un moment donné, les trois directeurs de recherche de l'IA des trois grands étaient français. Il y a eu une petite période où les trois étaient français. Donc, la question, c'est comment...
Pas en France.
Alors, excusez-moi, j'espère que personne ne sera choqué, mais il y a des gens hors de France. C'est un vrai sujet d'étude. Attention, et vous écoutez bien. Il y a des gens qui travaillent sur le sujet suivant. Comment un pays avec autant d'atouts peut merder à ce point ? C'est un sujet d'étude mondial. Hein. Parce que si vous étudiez... Si, j'y trouve que j'ai travaillé sur le Sénégal, sur d'autres pays, quand j'étais au FMI ailleurs. Au Sénégal, le désert gagne 30 000 hectares par an. Donc, voilà, vous faites ce que vous pouvez. Mais en France, un pays qui avait des excédents agroalimentaires incroyables, qui fait les meilleurs vins du monde, qui a certainement l'art de vivre, qui, s'il n'est pas le meilleur au monde, est peut-être un des trois meilleurs au monde, un pays exceptionnel dans ses capacités de production. Vous parlez du Rafale. Ce qui insupporte les Américains, c'est que la petite France arrive à faire les meilleurs sous-marins nucléaires du monde. Donc, les Rafales, ça les insupporte aussi qu'on arrive à faire des avions de
le
très
grande... Le Concorde les insupportait, souvenez-vous.
Voilà, exactement. Ils ont tout fait pour le tuer,
comment
d'ailleurs.
Comment ils ont emmerdé avec le Concorde?
Et ils l'ont tué.
Voilà, absolument.
Ils l'ont tué avec des limites posées sur les émissions de bruit. Voilà. Donc... comment un peuple aussi exceptionnel s'effondre en 25 ans ?
Vous dites que c'est un sujet d'étude, mais où ? Aux États-Unis ?
Aux États-Unis,
des
en Angleterre, il y a eu des séries d'articles du Wall Street Journal. Il y a eu des commissions d'études qui sont venues en France pour essayer de comprendre comment un pays avec autant d'atouts merde à ce point.
Ouais,
et donc, les explications qui sont données, c'est des explications qu'on connaît autour de cette table, c'est la surréglementation massive et la surfiscalité qui dérange tout le monde. Mmh. Et donc, on a eu encore un exemple l'automne dernier dans les discussions sur la loi de finances à l'Assemblée nationale, où on a discuté la loi Zucman, le projet de loi Zucman, la proposition Zucman de taxer massivement les plus riches, en oubliant que plus de 80% des 10 plus riches sont en fait des entrepreneurs qui créent des emplois. Mais quand on regarde ces propositions, ça a été dans la presse tout ça, hein, j'invente rien.
Ouais.
Le patron de Mistral, qui est la seule entreprise d'intelligence artificielle qui est reconnue mondialement et qui est française, aurait dû, si la loi avait été votée, vendre ses actions pour payer les impôts.
Absolument.
Dans un pays où, par ailleurs, on veut développer l'entrepreneuriat et où on veut créer des richesses. Donc, on marche totalement sur la tête. Et je termine, mais c'est très intéressant. Donc, les chercheurs qui se disent comment un pays qui a bien performé de 45 à 2000 merde tout à coup. Alors, il y a deux explications qui sont actuellement données. Il y a des chercheurs qui continuent de travailler très rapidement. La première, c'est la disparition des ingénieurs dans le système de prise de décision. Les ingénieurs, je parle de la prise de décision dans la sphère politique. Hein. C'est-à-dire que les ingénieurs continuent de travailler dans le domaine...
Il n'y a pas assez d'ingénieurs qui se lancent dans une carrière politique et qui deviennent décisionnaires sur le plan politique, c'est ça
dans les ministères et au gouvernement...
Ah oui, parmi les fonctionnaires...
Les ingénieurs jouent un rôle majeur, sortis des grands corps, les ingénieurs du pont, les ingénieurs sortis de Polytechnique, de Centrale, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont marginalisés. C'est plus eux qui prennent les décisions. Ils ont progressivement été remplacés au plus haut niveau du pays par des gens issus de l'ENA. Alors moi, j'ai été président du concours de sortie de l'ENA en économie en 2006. Et je peux vous dire que... Alors, ils voulaient que je reste comme président. Et je leur dis simplement, la qualité des copies fait que ça n'a aucun intérêt pour moi. J'ai même fait des cours à l'ENA à une époque.
Ils étaient nuls, quoi. C'est ça que
c'est pas qu'ils
dire.
Étaient nuls, mais ils n'ont pas été formés. C'est-à-dire qu'il faut revenir au projet initial du général de Gaulle. Il voulait former des hauts fonctionnaires de qualité, mais qui devaient travailler dans la sphère publique. Au service des politiques. Et le problème, c'est que... Et moi, je ne suis pas anti-ENA. Et d'ailleurs, c'est une bêtise d'avoir changé le nom de l'ENA. Il faudra probablement le rétablir parce que c'était une marque respectée. Mais il faut s'assurer que les énarques ne remplacent pas les ingénieurs dans la prise de décision, qu'il y ait des énarques dans la prise de décision. Mais certainement, on n'aurait pas fermé Fessenheim et fusillé le nucléaire s'il y avait eu un peu plus d'ingénieurs dans la prise de décision. Je rappelle qu'il y a eu des communiqués à répétition sur les 20 dernières années de l'Académie des sciences qui, justement, s'insurgeaient contre les décisions qu'on prenait sur le nucléaire. Mais on s'en foutait, tout le monde s'en foutait. Mais le deuxième élément qui va vous fasciner ici, surtout en voyant les personnalités autour de la table, c'est des travaux assez récents qui ont fait sortir un truc que je trouve fascinant. Ils disent simplement, ils se sont aperçus qu'il y a eu un basculement dans la deuxième moitié des années 90 dans les élites dirigeantes, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et je termine en 30 secondes, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément de résistants de gauche et de droite qui sont allés en politique. Et c'était des bouchers, des charcutiers, des préfets, des ingénieurs, des architectes qui... avaient pris le risque de mourir pour faire quelque chose pour sauver la France.
Ils ont pris
et beaucoup d'entre
aussi.
Eux ont été au Parti communiste, au Parti gaulliste, au Parti socialiste. Et pendant 40 ans, ils se parlaient, et même s'ils étaient de gauche ou de droite, ils avaient la même vision d'une France puissante qui se tient debout. Or, quand ils sont partis à la retraite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été remplacés par leurs attachés parlementaires. Et leurs attachés parlementaires, ce sont des gens de 20 ans, 23 ans, qui n'ont jamais travaillé dans la vraie vie, qui sont devenus attachés parlementaires au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui après avoir bossé 20 ou 30 ans...
On est passé au règne de pure politique.
Après avoir bossé 20 ou 30 ans avec leurs députés, leurs sénateurs, ont pris leur place. Et donc, cet acquis, cette vision qu'on a beaucoup souvent critiquée, mais gaulo-communiste pendant 40 ans, mais qui était fait par des gens qui avaient fait la résistance, tout ça était balayé. Donc si vous enlevez les ingénieurs, si vous enlevez les gens issus de la résistance, si vous remplacez tout ça par des gens qui n'ont jamais travaillé dans la vraie vie, ça contribue à la situation dans laquelle nous sommes. Si on rajoute ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le poids de l'idéologie verte dans la prise de décision.
Ouais,
et
ouais.
Je contraste simplement avec la situation de la Chine.
Jean-François Coulon-Désert après.
Oui. À partir du moment où Deng Xiaoping prend le pouvoir à partir de 78, mais il confirme son pouvoir à partir de 1980, de 1981 jusqu'au deuxième mandat de Xi Jinping en 2017, et même jusqu'en 2022, sur les 7 dirigeants du Parti communiste chinois, il y avait régulièrement 5 ou 6 ingénieurs. C'est ce qui explique qu'ils ont construit une industrie surpuissante qui pose un problème d'ailleurs au plan mondial. Donc,
pas assez d'ingénieurs dans la sphère décisionnelle.
Et pas assez de gens qui pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Damien Chalamel, c'est l'absence de racines dans les dirigeants qui écrivent l'avenir de la France.
Alors, moi, j'ai...
Ah, ça, c'est intéressant. On y reviendra. Jean-François Coulon-Désert.
J'ai une question, parce que vous parliez tout à l'heure d'une pluie d'impôts, d'une grêle de règlements, d'un orage de normes. Quid, on n'a pas oublié quelque chose ? L'Europe. Comment l'Europe nous handicape ? Comment l'Europe, depuis 40 ans, nous handicape ?
Alors, c'est une vraie question. L'Europe a totalement dérivé à partir du marché unique. L'Europe
Je rappelle que nous sommes avec Christian Saint-Étienne.
En fait, il faut revenir à l'origine du traité de Rome, qui est négocié dans l'hiver 56-57 par 6 hommes à l'époque. Simplement, 5 des 6 ont 60 ans, un peu plus. un à 45 ans qui est le français, mais il est secondé par le directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay qui a aussi 60 ans. Donc si on se replace avec six négociateurs qui ont 60 ans ou autour de cet âge, et on est en 1956, ils ont vécu deux guerres mondiales au cours de leur vie.
Plus de guerre,
Et quand ils négocient le traité, exactement, ils disent plus jamais de guerre et donc plus jamais de puissance. Et donc, si on interdit l'essor des puissances, que ce soit les puissances économiques, les puissances financières, on va tout faire pour bloquer les fusions, ainsi de suite, et plus de puissance politique, on se couche et on se met sous la main des États-Unis, on s'auto-protège de cette façon. À l'époque, on a le monde soviétique, le reste du monde, c'est le tiers-monde, la Chine et l'Inde n'existent pas en tant que puissance économique. Et donc, dans la négociation, on cherche une colonne vertébrale du traité. Et on la trouve avec, sous l'influence allemande, avec le principe de concurrence. Et c'est le principe de concurrence qui est le cœur du traité européen et qui détermine toutes les décisions. C'est grâce au pouvoir en termes de droit de la concurrence qui a été donné à la Commission d'interdire les accords entre les entreprises, d'interdire les politiques stratégiques des États, que nous nous retrouvons dans une situation d'affaiblissement. Donc vous avez totalement raison. Il y a un double affaiblissement depuis une trentaine d'années, un affaiblissement français dans un affaiblissement européen.
Mais même le droit à concurrence, a été distordu.
Oui.
Puisque regardez, notre électricité a augmenté sous l'ère Macron elle a pratiquement doublé. Tout ça pour faire plaisir aux Allemands, qui, parce que Merkel a fait une grosse bêtise en zappant le nucléaire, et puis est arrivée la guerre, l'Ukraine, etc., donc ils n'ont plus de gaz, donc ça leur coûte une fortune. C'est bien ça.
Oui, et ils ont tout fait pour tuer le nucléaire parce que ça permettait des coûts d'électricité trois fois moindres que les leurs. Et donc, ils voulaient tuer cet avantage comparatif de la France.
Et on a laissé faire.
Alors même qu'on n'en avait pas beaucoup. Non seulement on a laissé faire, mais on a largement contribué puisqu'on a appris il y a 18 mois que Dominique Voynet avait beaucoup contribué en 98-99 à créer l'attitude européenne anti-nucléaire, alors qu'à ce moment-là, l'Europe n'était pas anti-nucléaire, mais c'est Dominique Voynet qui a largement contribué à instiller l'idée qu'il fallait tuer le nucléaire.
Avant non pas Tchernobyl, mais avant ce qui a dû se passer au Japon. Oui,
ouais, absolument. Allez, on va continuer de parler de tout cela immédiatement. Nous sommes, je le rappelle, avec Christian Saint-Étienne, l'économiste Christian Saint-Étienne.